Chapitre 34. Mélanie. J'étais fort contrariée de quitter Grumblethorpe, mais je n'avais guère le choix étant donné les circonstances. Le quartier était devenu bien trop agité. Les nègres avaient choisi le nouvel an pour organiser une de ces émeutes insensées dont j'entendais parler depuis si longtemps. Ce genre de choses ne se produisait jamais avant les manifestations de ces 20 ou 30 dernières années en faveur des prétendus droits civiques. Père avait l'habitude de dire que si on accordait un doigt à un nègre, il exigeait le bras et s'emparait de l'épaule. La messagère de Nina, une fille de couleur qui aurait été séduisante n'eût été sa coiffure ébouriffée qui la faisait ressembler à une négrillonne, avait presque réussi à me convaincre que ce n'était pas Nina qui l'envoyait. Mais j'avais fini par la percer un jour grâce aux voix de Grumblethorpe. Elles étaient fort bruyantes ce dernier jour. J'avoue avoir eu quelques difficultés à me concentrer sur certaines tâches moins importantes, tant je m'efforçais de comprendre ce que me disaient ces voix, celles d'un petit garçon et d'une petite fille à l'accent étrange, presque anglais. Certains de leurs propos étaient confus. Elles me parlaient de l'incendie, du pont, de la rivière et de l'échiquier. Je me demandais si elles faisaient référence à des événements de leur propre vie. Peut-être les catastrophes qui avaient causé leur trépas. Mais lorsqu'elles évoquaient Nina, leurs avertissements étaient on ne peut plus clairs. En fin de compte, les deux émissaires de Nina, venus jusqu'ici depuis Charleston, ne me causèrent que des désagréments mineurs. J'étais navré de perdre Vincent, mais à vrai dire, il avait rempli son rôle. Je ne garde aucun souvenir précis des derniers instants que j'ai passés à Grumblethorpe. Je me rappelle surtout l'atroce migraine qui me taraudait la moitié droite du crâne. Alors qu'Anne était occupée à faire nos bagages avant de venir me chercher, je lui avais ordonné mentalement d'emporter une bouteille de Dristan. Il n'était guère étonnant que mes sinus me fassent si mal dans ce climat nordique, si froid, si humide et si peu hospitalier. Anne se pencha pour m'ouvrir la porte de la voiture lorsque je sortis de Grumblethorpe. Un incendie ravageait l'immeuble d'en face, sans aucun doute l'œuvre des pillards nègres. Quand Mrs. Hodges me rendait visite et évoquait les dernières atrocités survenues dans le Nord, elle manquait rarement de préciser que les minorités soi-disant pauvres, mal nourries et opprimées sautaient sur la moindre occasion de voler des téléviseurs de prix et des vêtements fantaisie. Elle estimait que les gens de couleur employés autrefois par les Blancs n'avaient jamais cessé de voler leur maître et qu'ils continuaient d'agir ainsi maintenant qu'ils étaient devenus des assistés. C'était une des rares opinions que je partageais avec cette vieille fouinarde. Il y avait 3 valises sur la banquette arrière de la De Soto. Une des 2 plus grandes contenait mes vêtements, l'autre l'argent et les actions qu'Anne avait conservées, et la plus petite quelques vêtements et effets personnels appartenant à Anne. Elle n'avait pas oublié mon fourre-tout. Le fusil à pompe qu'elle conservait chez elle était posé sur le tapis de sol. « Allons-y, ma chère, » dis-je, et je m'adossai au siège. Anne Bishop conduisait comme une vieille femme. Nous laissâmes Grumblethorpe et l'immeuble en flammes, et pratiquement au pas, prîmes la direction du nord-est. Je regardais derrière nous et remarquais qu'une collision venait de se produire près du croisement entre Queen Lane et Germantown Avenue. Une fourgonnette et 2 automobiles surbaissés, plutôt laides, étaient immobilisés au carrefour. Il n'y avait aucun signe de la police. Nous passâmes devant Penn Street, Coulter Street, et nous approchions de Church Street lorsque 2 fourgonnettes s'immobilisèrent en travers de la chaussée, nous bloquant le passage. J'ordonnai à Anne de monter sur le trottoir de gauche et de ne pas s'arrêter. Des hommes sortirent des fourgonnettes en brandissant des armes, mais ils furent vite distraits lorsque celui que je surveillais tourna son revolver dans leur direction et se mit à tirer sur ses collègues. C'était ridicule. S'ils étaient ici pour arrêter les pillards de couleur, ils auraient dû s'atteler à leur tâche et laisser en paix 2 dames blanches comme nous. Nous arrivâmes au niveau de Market Street. En dépit de l'obscurité, je distinguais le soldat Yankee de bronze debout sur son piédestal. Lors de notre première sortie, Anne m'avait appris que ce monument était en granit de Gettysburg. Je pensais au général Lee, battant en retraite sous la pluie, ayant perdu la bataille, mais pas la guerre, ayant préservé de ce carnage toute la fierté de la Confédération, et je me sentis un peu moins démoralisé par le repli que j'étais en train d'effectuer. Les gyrophares et les lumières clignotantes de voitures de pompiers, de police et autres véhicules de secours fondirent sur nous de l'autre bout de Germantown Avenue. Derrière nous, une fourgonnette et une conduite intérieure noire menaçaient de nous rattraper. J'entendis un bruit étrange. Je levai les yeux et aperçus des lueurs vertes et rouges au-dessus des toits. « Tournez à gauche !» ordonnai-je. Au moment où Anne m'obéit, la distance entre la voiture de pompier et nous s'était suffisamment réduite pour que je puisse voir le visage de son conducteur casqué. Je fermai les yeux et poussai. Le long véhicule vira brusquement au milieu de la chaussée, rebondit sur les rails des tramways et emboutit la fourgonnette au niveau de sa portière droite. Celle-ci fut plusieurs tonneaux et s'immobilisa sur le toit en plein centre de Market Square. J'aperçus la conduite intérieure qui freinait à mort pour éviter le camion rouge couché en travers de la rue, puis nous nous engageâmes dans Schoolhouse Lane, loin de toute cette agitation. J'avais forcé Anne à faire bien des choses, mais le plus dur était de l'obliger à rouler à plus de 50 km à l'heure. Je dus rassembler toutes les ressources de ma volonté pour qu'elle conduise enfin comme je le souhaitais. Si bien que ce fut par l'intermédiaire de ses sens que je vis les rues défiler sur le côté, entendis le bruit des pales au-dessus de nous et regardai les rares voitures qui circulaient à cette heure s'écarter devant nous. Schoolhouse Lane était une jolie rue, mais elle n'avait pas été conçue à l'intention d'une De Soto 1953 roulant à 130 km/h. Une voiture verte apparut derrière nous et nous prit en chasse. J'apercevais de temps en temps l'hélicoptère qui suivait une course parallèle à la nôtre, tantôt sur notre gauche, tantôt sur notre droite. J'ordonnai à Anne de freiner pour négocier un virage, puis d'accélérer à nouveau. Soudain, la lunette arrière se transforma en toile d'araignée et des éclats de verre jaillirent dans l'habitacle. Je jetai un regard par-dessus mon épaule et vis deux trous gros comme mon poing. Un noir en veston titubait au bord de la chaussée lorsque nous arrivâmes près de Ridge Avenue. Il traversa lorsque la voiture verte surgit et se jeta devant elle. Je vis dans le rétroviseur le véhicule faire une embardée pour l'éviter, heurter la bordure du trottoir à plus de 100 km/h et décrire en l'air une spirale complète avant de s'encastrer dans la vitrine d'un débit de hamburger. Je cherchais un plan de Philadelphie dans la boîte à gants tout en gardant le contrôle de la voiture par l'entremise d'Anne. Je voulais trouver une voie express pour sortir de cette ville de cauchemar. Il y avait devant nous une pléthore de panneaux, de flèches et de ponts autoroutiers, mais je ne savais quelle route suivre. Un vacarme soudain nous parvint par la vitre brisée et l'énorme hélicoptère passa à 10 mètres sur notre droite. À la lueur des réverbères qui défilaient à une vitesse folle, j'aperçus le pilote et un homme coiffé d'une casquette de baseball qui se penchait vers nous à l'arrière de l'appareil. Il avait un sourire de dément et tenait quelque chose dans ses bras. J'ordonnai à Anne de tourner à droite pour prendre une rampe d'accès. La roue arrière gauche de la De Soto glissa sur un accotement non stabilisé et durant quelques secondes, je me concentrai entièrement sur le volant et l'accélérateur pour éviter l'accident. L'hélicoptère passa en rugissant sur notre gauche alors que nous roulions sur une boucle sans fin. Une tache rouge dansa un instant sur la joue gauche d'Anne. Je lui ordonnai aussitôt d'appuyer sur l'accélérateur. La vieille voiture bondit en avant, la tache disparut, et quelque chose frappa le pare-choc arrière de la voiture avec un bruit sourd. Nous nous retrouvâmes soudain sur un pont enjambant une rivière. Je ne voulais pas de pont. Je voulais une voie express. L'hélicoptère était à présent sur notre droite, exactement à notre niveau. L'espace d'une seconde, une lueur rouge brilla dans mon œil, et j'ordonnai à Anne d'obliquer à gauche et de se coller au flanc d'une fourgonnette Volkswagen qui nous servirait ainsi de bouclier. Le conducteur de la Volkswagen s'effondra soudain sur son volant et son véhicule se précipita sur la rambarde. L'hélicoptère se rapprocha, réussissant à maintenir une vitesse de 140 km/h. Nous étions sortis du pont. Anne vira sèchement à gauche et nous passâmes par-dessus le terre-plein central, évitant de justesse un semi-remorque qui nous lança un coup de klaxon furieux. Nous sortîmes de la route au niveau d'un panneau vantant les mérites des appartements présidentiels. Quatre voies désertes s'étendaient devant nous, dans un jour artificiel, dispensé par les lampes à mercure. Il y eut une série d'éclairs verts et rouges lorsque l'hélicoptère passa 5 mètres à peine au-dessus de nos têtes, fit demi-tour et s'immobilisa une centaine de mètres devant nous. L'endroit était trop désert, trop bien éclairé. On aurait dit un stand de tir à la carabine dont nous étions les cibles. J'ordonnai à Anne de tourner à gauche. Les pneus de la deux auto mordirent l'asphalte en gémissant et nous catapultèrent sur une voie d'accès non signalée, à peine plus large qu'une allée. Cette route se dirigeait vers le sud-ouest, sous une section aérienne de ce que le plan appelait la voie express Schuylkill. C'était faire preuve d'indulgence que de lui donner le nom de route. Il ne s'agissait que d'un chemin gravillonné infesté de nids de poules. Des piliers de béton défilaient dans nos phares. La robe et le pull-over d'Anne étaient trempés de sueur et son visage offrait un spectacle étrange. L'hélicoptère apparut sur notre gauche, volant au-dessus d'une voie ferrée parallèle à la voie express. Une rangée de piliers nous séparait, accentuant l'impression de vitesse. Notre vieux compteur indiquait 150 km/h. La route gravillonnée s'achevait un peu plus loin, dans un labyrinthe de bretelles soutenues par des centaines de piliers, contreforts et entretoises. Une forêt de béton et d'acier. Je veillais à ce qu'Anne ne bloque pas le frein, mais nous avons dû déraper sur une demi-longueur de terrain de football, projetant un nuage de poussière au sein duquel la lueur de nos phares se réduisit à 2 raies de lumière jaunâtre. La poussière se dissipa. Nous avions stoppé à moins 1 mètre d'un contrefort gros comme une petite maison. La deux auto le contourna au ralenti, roula doucement entre les pylônes et sortit prudemment de sous une chaussée pour aller se dissimuler sous une autre. Il devait y avoir au moins 15 voies de circulation au-dessus de nous, dont certaines s'incurvant vers un pont qui ajoutait des troncs supplémentaires à la forêt de piliers. Nous parcourûmes une 50 mètres dans ce labyrinthe, et j'ordonnai à Anne de se ranger près d'une île de béton, de couper le moteur et d'éteindre les phares. J'ouvris les yeux. Nous étions pareils à des souris venant de s'introduire dans une cathédrale baroque. D'immenses piliers se dressaient vers les chaussées aériennes, hauts de 15 à 25 mètres, voire davantage, près des 3 ponts qui enjambaient la Schuylkill River. Seul le murmure de la circulation et le sifflement encore plus lointain d'un train venaient briser le silence. Je comptais jusqu'à 300 avant d'oser espérer que l'hélicoptère nous ait perdus et ait renoncé à nous poursuivre. Puis retentit un rugissement effroyable. Précédé par la lumière de son projecteur, l'engin infernal flottait à 10 mètres au-dessous de la plus haute chaussée aérienne, le vacarme de son moteur et de son rotor résonnant sur la moindre surface de béton. L'hélicoptère avançait lentement, ses pales se tenant à l'écart des pylônes et des banquettes de sûreté, son fuselage pivotant comme la tête d'un chat aux aguets. Le projecteur finit par nous trouver et nous épingla dans son éclat impitoyable. À ce moment-là, j'avais déjà ordonné à Anne de descendre. Elle tenait son fusil avec maladresse, calé sur le toit de la deux auto. Au moment même où je lui ordonnais de tirer, je sus que c'était trop tôt, que l'hélicoptère était trop loin. Le bruit de la détonation vint s'ajouter au vacarme ambiant, sans autre effet notable. Anne fit 2 pas en arrière sous l'effet du recul. Une balle à haute vélocité lui arracha son fusil des mains et la jeta à terre. J'étais déjà étendue sur le tapis de sol lorsque la deuxième balle fracassa le pare-brise et fit tomber une pluie de verre sur la banquette avant. Anne réussit à se relever, à regagner la voiture et à tourner la clé de contact de la main gauche. Son bras droit pendait, inutilisable, presque détaché de l'épaule. Un os luisait sous la laine et le coton déchiré. Nous passâmes en dessous de l'hélicoptère, la souris désespérée détalant entre les pattes du chat surpris, puis nous nous engageâmes sur une voie gravillonnée, nous éloignant temporairement de la rivière pour négocier un escarpement boisé qui donnait sur un pont. L'hélicoptère se lança à notre poursuite. Mais les arbres dénudés qui se dressaient de chaque côté de la route étaient assez hauts pour nous protéger tant que nous continuions de rouler. Nous arrivâmes sur une ligne de faîte boisée. À droite, la voie express s'incurvait vers le sud. À gauche, nous avions la rivière et la voie ferrée. Je vis que notre route rejoignait par la gauche le plus au sud de deux ponts ténébreux. Nous n'avions plus le choix. L'hélicoptère était de nouveau derrière nous, les arbres étaient trop rares pour nous protéger, et il était impossible à la De Soto de descendre le long du talus escarpé et boisé pour rejoindre la voie express située quelques centaines de mètres plus bas. Anne tourna à gauche, accéléra une fois sur le pont, et stoppa. C'était un pont de chemin de fer, un très vieux pont, bordé de chaque côté par un garde-fou de pierre et de métal. Les rails rouillés, les traverses de bois, et une étroite cendrée s'enfonçaient dans les ténèbres à 25 bons mètres au-dessus de la rivière. 10 mètres devant nous, une solide barrière nous bloquait le passage. Même si nous avions pu la franchir, cela ne nous aurait servi à rien. Le terre-plein était trop étroit, trop exposé, et les traverses nous auraient trop ralenti. Nous marquâmes une pause qui ne dura pas plus de 20 secondes, mais c'était déjà trop long. Le rugissement se fit de nouveau entendre, un tourbillon de poussière et de brindilles nous enveloppa, et je me baissai alors qu'une masse sombre occultait le ciel. 5 trous apparurent dans le pare-brise. Le volant et le tableau de bord explosèrent, et Anne Bishop tressauta sous les balles, touchée au ventre, à la poitrine et au visage. J'ouvris la portière et me mis à courir. Une de mes pantoufles roula en bas du remblai et disparut dans les buissons. Mon peignoir et ma chemise de nuit se gonflèrent sous la tornade des rotors. L'hélicoptère passa à vive allure à 1,50 m à peine au-dessus de ma tête et disparut derrière la ligne de fête. J'avançais en titubant le long des traverses, m'éloignant du pont. Au-delà du fait et de la lueur qui émanait de la voie express, j'apercevais l'obscurité relative de Fairmount Park. Anne m'avait dit qu'il s'agissait du plus grand parc municipal du monde, plus de 1600 hectares de forêt longeant la rivière. Si je pouvais arriver jusque-là. L'hélicoptère s'éleva au-dessus de la ligne des arbres, comme une araignée montant le long de sa toile. Il glissa latéralement vers moi. Partant de son cockpit, je vis un mince rayon rouge trancher l'air empoussiéré. Je fis demi-tour et regagnai le pont à grand-peine en direction de la De Soto. C'était exactement ce qu'ils attendaient de moi. Un sentier abrupt s'enfonçait dans les buissons à droite du remblai. Je m'y engageai, glissai, perdis ma seconde pantoufle et tombai assis sur le sol froid et humide. L'hélicoptère passa au-dessus de moi en rugissant, s'immobilisa à 15 mètres au-dessus de la rivière et balaya le rivage de son projecteur. Je trébuchais le long du sentier, glissais sur une longueur de 6 mètres, sentant les branches des buissons m'érafler la peau. Le projecteur m'épingla de nouveau. Je me redressais, me protégeais les yeux et scrutais son éclat. Si je parvenais à utiliser le pilote. Une balle vint agacer l'ourlet de ma robe de chambre. Je me mis à 4 pattes et gravis péniblement le remblai, m'arrêtant à 12 mètres au-dessous du pont. L'hélicoptère perdit un peu d'altitude et me suivit. Nina ne se trouvait pas à bord de l'appareil. Qui était-ce donc? Je rampai derrière un tronc pourrissant et me mis à sangloter. 2 balles se plantèrent dans le bois. J'essayais de me recroqueviller sur moi-même. J'avais une migraine atroce. Ma chemise de nuit et ma robe de chambre étaient dans un état épouvantable. L'hélicoptère flottait presque à mon niveau, à 10 ou 12 mètres de moi, pas tout à fait sous le pont. Il pivota sur lui-même, jouant avec moi comme un prédateur prêt à achever son gibier. Je levai la tête, concentrai toute mon attention sur l'appareil et sur ses passagers. Ignorant le supplice que me causait ma migraine, je tendis ma volonté le plus loin et le plus fort possible, plus résolu que jamais. Rien. Il y avait 2 hommes à bord de l'appareil. Le pilote était un neutre, un trou dans la trappe de pensée. L'autre était un utilisateur, pas Willy, mais un homme aussi obstiné et assoiffé de sang que l'était Willy. Comme je ne l'avais jamais vu, ne le connaissais pas, ne l'avait jamais affronté, il m'était impossible de triompher de son talent assez longtemps pour pouvoir l'utiliser. Mais lui pouvait me tuer. J'essayais de ramper vers une culée de pierre située à 6 ou 7 mètres de moi. Une balle laboura la terre à 20 centimètres de ma main. J'essayais de remonter les 3 sentiers vers un buisson touffu. Une balle m'effleura la plante du pied. Je pressai ma joue contre le sol, mon dos contre la souche pourrissante, et fermai les yeux. Une balle déchira le bois friable à quelques centimètres de mon dos. Une autre se planta dans la terre, entre mes jambes. Anne avait été atteinte par 4 balles. La première lui avait traversé le ventre, ratant de justesse la colonne vertébrale. La deuxième lui avait brisé une côte, avait ricoché sur sa cage thoracique et avait réduit son bras gauche en pièces. La troisième balle avait traversé son poumon droit et s'était logée dans son omoplate droite. La dernière l'avait atteinte à la joue gauche, lui arrachant la langue et la plupart des dents, et était ressortie par son maxillaire droit. Pour l'utiliser, j'étais obligée de ressentir toute la souffrance de son agonie. La moindre rupture de contact lui aurait permis de m'échapper, d'échapper à ce monde. Mais je ne pouvais pas lui permettre de mourir. J'avais besoin d'elle une dernière fois. Le moteur de la DeSoto continuait de tourner. La boîte automatique était au point mort. Pour passer en prise, Anne dut passer la tête à travers le volant brisé et serrer le levier métallique avec ce qui lui restait dedans. Poussée par la force de l'habitude, elle avait serré le frein à main. Je lui ordonnais de le desserrer avec son genou. L'image qu'elle me transmettait se brouilla et disparut. Je la forçais à se reformer au prix d'un effort surhumain. Des éclats d'eau lui voilaient l'œil droit. Aucune importance. Elle posa ses bras fracassés sur l'anneau de métal commandant le klaxon et accrocha sa main droite à ce qui restait du volant en plastique. J'ouvris les yeux. Une tache rouge dansa sur l'herbe sèche près de moi, trouva mon bras, se déplaça vers mon visage. Il ne restait pratiquement plus rien du tronc pourrissant. Je clignai des yeux pour chasser le rayon rouge. Le bruit que fit la DeSoto en accélérant et en défonçant le garde-fou était audible en dépit du vacarme du rotor. Je levai les yeux à temps pour voir le double faisceau lumineux des phares poignarder l'espace avant de basculer. J'eus la vision d'un carter et des cieux noirs lorsque la DeSoto tomba presque à la verticale. Le pilote était très, très fort. Il avait dû apercevoir quelque chose au-dessus de lui, à la lisière de son champ de vision. Il réagit presque instantanément. Le moteur de l'hélicoptère hurla et son fuselage bascula en avant au moment où il virait vers la rivière. Seul le bout d'une pale toucha la voiture dans sa chute. Ce fut suffisant. Le rayon rouge avait quitté mon œil. Un cri presque humain de métal torturé me déchira les oreilles. Toute la puissance de rotation de l'hélicoptère parut se transférer de son rotor à son fuselage, et la cabine superbement profilée se mit à tourner sur elle-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, une fois, 3 fois, 5 fois, avant d'aller se fracasser sur l'arche de pierre du pont de chemin de fer. Il n'y eut pas de flamme, pas d'explosion. La masse d'acier, de plexiglas et d'aluminium broyé tomba silencieusement d'une hauteur de 20 mètres pour heurter l'eau tout près de l'endroit où la DeSoto s'était engloutie à peine 3 secondes plus tôt. Le courant était très fort. Pendant plusieurs secondes, le projecteur de l'hélicoptère resta allumé, montrant l'engin privé de vie en train de s'enfoncer dans les profondeurs et de s'éloigner vers l'aval plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. Puis la lumière s'éteignit, et les eaux sombres se refermèrent sur lui comme un linceul boueux. Il s'écoula 1 minute avant que je ne me rassoie, 1 demi-heure avant que j'essaie de me relever. Aucun bruit n'était perceptible en dehors du doux murmure de la rivière et du chuchotement lointain et immuable de la voix express invisible. Au bout d'un certain temps, je nettoyais tant bien que mal ma chemise de nuit des brindilles et de la poussière qui s'y accrochait, serrait la ceinture de ma robe de chambre et remontait lentement vers le sentier.